réflexion à propos des semences utilisées pour la revégétalisation ou pour la restauration écologique, et notamment quelles espèces utilisées et quelle origine. Donc finalement, on a déjà beaucoup évoqué ça ce matin au travers des discussions, donc je vais refaire juste une petite synthèse, et puis j'évoquerai à la fin les pistes que le Conservatoire des espaces naturels lance, et notamment au travers d'un stage d'étudiante de SUPAGRO Montpellier. Donc pourquoi on s'est intéressé à ce sujet-là? Parce qu'en fait, la revégétalisation et la restauration écologique sont en train de prendre des proportions importantes. Hein. Il y a de plus en plus de demandes, il y a une demande croissante. Par des acteurs qui sont très différents et pour des objectifs qui peuvent être très différents. Donc parmi ces différents acteurs et projets concernés, on a par exemple tout ce qui est grand aménagement. On en a déjà parlé un petit peu ce matin pour les travaux de réhabilitation, hein, par rapport à des projets ferroviaires, autoroutiers, routiers, ou de la réhabilitation de sites comme les carrières, comme les mines, comme les stations de ski. Et dans ces projets, en fait, on retrouve maintenant dans tous les cahiers des charges, de manière quasi systématiquement, de la revégétalisation. Mais derrière, la question de cette revégétalisation, c'est quelles espèces et quelles origines des semences utilisées. Parmi les autres projets concernés, ben c'est l'embellissement périurbain, hein, on en parle beaucoup aujourd'hui parce que c'est le thème de la journée, c'est les prairies fleuries. Sont concernées là plus souvent les collectivités, notamment les communautés d'agglomération ou les villes. La revégétalisation pour l'embellissement paysager, ça concerne là aussi prairies ou jachères fleuries. Et on a vu augmenter les demandes de la part des syndicats de crus et des domaines viticoles, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et l'inscription des prairies fleuries dans les chartes paysagères. Autre projet dans lequel les jachères fleuries ou prairies fleuries sont très utilisées, c'est les cultures faunistiques. Donc je regrette qu'aujourd'hui, mais peut-être qu'ils viendront, il n'y ait pas de représentation des fédérations régionales de chasse ou départementales de chasse. On en a parlé tout à l'heure, hein, avec... Ça serait très intéressant parce qu'au niveau régional, c'est des gros utilisateurs de semences de prairies fleuries. Hein. Ça représente plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'hectares. Et qu'on retrouve distribué sur l'ensemble du territoire, dans des domaines, là on n'est plus dans du périurbain, mais vraiment sur tous les territoires, même dans les territoires les plus sauvages. Donc là c'est une photo par exemple de jachère fleurie installée à côté de l'Odève. La revégétalisation, c'est aussi utilisé, et c'est devenu une obligation dans le cadre des bonnes conditions agro-environnementales, donc dans la PAC en fait, hein, c'est une obligation maintenant, notamment le long des cours d'eau où il y a obligation d'implanter des bandes enherbées d'au moins 5 mètres, et là encore une fois on utilise des semences d'espèces pour créer ces couverts. Dans le cadre des mesures agro-environnementales, on en parlait par exemple pour l'outarde canepetière, hein, dans le cadre des MAE, on crée aussi des couverts herbacés, et donc ça correspond à tout un tas de mesures qui sont financées par l'Europe et par l'État, et c'est donc les engagements unitaires du PDRH, couvert 01, couvert 02, jusqu'à couvert 07. On retrouve aussi l'utilisation de semences dans tout ce qui est guide technique guide technique et de conseil pour des pratiques favorables à la biodiversité, où dans ces guides, on retrouve généralement l'utilisation de semences locales. Et dernier point, dans lequel sont utilisées les semences sauvages, c'est les projets de restauration écologique. Et là, c'est ce qu'on peut retrouver par exemple dans des projets de restauration de prés salés. C'est ce qui se passe dans le cadre du Life Like Nature. Donc c'est un projet européen qui est porté par le conservatoire et dans lequel on a pour objectif de restaurer des prés salés. C'est ce qu'a pu se faire sur des milieux dunaires, notamment par l'ONF sur la côte atlantique, mais aussi par l'EID en Languedoc-Roussillon. C'est ce qui se passe dans la réhabilitation de berges ou dans la réhabilitation de zones humides. Thank you. Et la restauration écologique va être un point important aussi dans les projets de trame verte et bleue qui ont été votés dans le cadre des Grenelle 1 et Grenelle 2. Alors, suite à tous ces projets, quelles espèces on utilise, quelles semences on utilise et quelles origines. Alors, trois problèmes essentiels, questionnements que nous on a eu par rapport à l'utilisation de ces semences. C'est l'utilisation des espèces exotiques, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, qui sont potentiellement envahissantes, et d'autant plus si ces espèces, elles sont sélectionnées pour leur adaptation aux conditions climatiques. Parce qu'on voit que maintenant, on va vers le choix d'espèces qui sont bien adaptées au climat méditerranéen, aux sécheresses, à la faible utilisation d'eau, donc qui ont peut-être une capacité supplémentaire, enfin plus forte à s'installer que des espèces qui étaient des espèces plus tropicales ou qui n'étaient pas adaptées forcément à nos climats et donc qui, de toute façon, n'arrivaient pas à s'adapter. Après, il se pose la question de l'utilisation d'espèces autochtones, mais qui sont améliorées par l'horticulture ou par l'agriculture. On l'a déjà un petit peu évoqué ce matin. C'est-à-dire qu'on a des espèces qui ont été améliorées, donc qui génétiquement sont différentes, qui peuvent très certainement s'hybrider avec des populations locales. Et donc, on en vient à la question de ce matin. Est-ce qu'il y a un risque de pollution génétique? Et est-ce qu'il y a un risque, du coup, d'homogénéisation génétique et donc de perte de diversité génétique? Même question si on utilise des semences d'espèces sauvages, mais qui ne sont pas locales. Donc des semences, je ne sais pas, par exemple, prendrait une espèce de méditerranéenne, mais qui vient de Turquie plutôt que qui vient de France. Qu'est-ce qui se passe pour nos écotypes, ou nos sous-espèces, ou nos variétés locales? Est-ce qu'il y a un risque de banalisation et là aussi de perte de diversité génétique? Pour illustrer un peu ce propos, j'ai pris quelques exemples. Hier, j'ai tapé sur Internet prairie fleurie. J'ai pris un exemple de mélange où on retrouvait Echolcia, Centaurée, Tagette, Convolvulus, Calendula et Zinnia lilliput. Donc, j'ai regardé un petit peu ce mélange. Donc, déjà, on ne connaît pas l'origine. On voit que c'est largement composé d'espèces exotiques. Comme les Echolcia, par exemple, donc une espèce exotique qui a des capacités d'adaptation assez importantes, on voit qu'ils s'installent bien. Alors après, moi je ne connais pas suffisamment pour savoir s'ils se reproduisent, si, comme le disait Jam, il y a un risque d'invasion, mais en tout cas c'est une invasive potentielle. Une question importante par rapport aux centaurées, parce que là on se rapproche d'espèces qui sont présentes d'un point de vue local. Et je pense notamment aux bleuets et aux bleuets améliorés pour l'horticulture. Où on trouve des bleuets doubles, des bleuets avec beaucoup de pétales, des gros bleuets. Et ces gros bleuets, la plupart du temps, ils ont perdu toute leur capacité nectarifère, en fait, tous leurs produits nectarifères. Et là, on peut s'interroger sur, justement, si ces espèces sont en capacité de s'hybrider avec les espèces locales. Que vont devenir les espèces locales et est-ce qu'on va conserver les propriétés nectarifères des espèces, des bleuets locaux? Même question par exemple avec le calendula, calendula qui généralement dans ces mélanges est un calendula à grosses fleurs doubles, et est-ce qu'il y a un risque d'hybridation avec la souche sauvage et donc là encore une fois d'homogénéisation génétique? Même question avec des mélanges qu'on retrouve en agriculture, ou en tout cas des propositions, plus que des propositions, des espèces qu'on retrouve sur le marché qui visent l'enherbement vivace pour les bandes enherbées, pour l'enherbement des vignes. On retrouve par exemple le brome cathartique, qui est une espèce invasive avérée, parce que je ne sais pas si vous connaissez le livre donc de Muller, écrit en 2004 sur les espèces invasives de France, dans laquelle il y a différentes listes, et le brome cathartique fait partie de ces espèces invasives avérées, et c'est une espèce qu'on retrouve en vente de partout comme une espèce destinée à l'enherbement vivace. Exactement la même chose pour le brome sitchensis. Et après, sur les variétés améliorées, là aussi on peut se poser la question de l'hybridation des variétés améliorées, par exemple de lotier, de trèfle ou de fétuque. Je pense notamment aux fétuques de type fétuque ovine, qu'on retrouve généralement dans les mélanges fourragers, qui sont généralement semés dans des milieux où on retrouve des fétuques autochtones, et notamment des fétuques endémiques du groupe ovina. Donc voilà, par rapport à ces différentes questions, on a regardé, enfin, ça amène du coup à la question de la production d'espèces, de semences d'espèces sauvages plutôt locales, et on a regardé ce qui se faisait. Donc il y a ce qui se fait au niveau des semenciers, donc là je n'ai pas beaucoup d'informations, mais j'ai regardé ce qui se faisait dans le cadre de projets de recherche ou de plans d'action, par exemple pour les messicoles. Il existe par exemple un projet qui s'appelle Diverba, qui est mené par Laurent Hazard à l'INRA de Toulouse, où là ils ont initié un projet pour restaurer des prairies naturelles en fait. Alors, en fait, ils font des récoltes de semences directes dans les prairies naturelles existantes. Ils ont fait ça en Aveyron et ça va se faire en Lozère avec le parc national des Cévennes. Et donc le but là, c'est de proposer des mélanges pour reconstituer les prairies fleuries avec des espèces sauvages locales adaptées aux conditions climatiques de chaque coin, et notamment là d'Écosse aveyronnais et d'Écosse lozérien. Dans le même temps, ils travaillent aussi sur la réhabilitation de variétés locales de de luzerne et de sainfoin. Projet qui va dans le même sens, c'est un projet sur lequel Laurent Hazard a également travaillé, et donc j'ai compris tout à l'heure que Monsieur Bourluge avait travaillé également, c'est le projet Ecovar, donc qui est un projet du Conservatoire botanique des Pyrénées et Midi-Pyrénées. Donc, le but était de restaurer des pistes de ski dans les Pyrénées. Restaurer des pistes de ski avec une espèce qui s'appelle Festuca eschia. Et là aussi s'est posée donc la question de quelles origines pour les fétuques, ces fétuques. Et en fait, Laurent Hazard a travaillé sur une étude génétique sur l'ensemble de Festuca eschia sur les Pyrénées, et ils ont mis en évidence en gros trois origines, alors, je ne sais pas comment les définir parce que je ne suis pas généticien, mais trois écotypes, ou en tout cas trois origines qu'il fallait maintenir. Donc ils ont divisé les Pyrénées en gros en trois secteurs, et ils produisent des fétuques selon trois origines pour répondre à cette problématique de restauration de pistes de ski. Autre projet, là aussi mené par le Conservatoire botanique des Pyrénées et Midi-Pyrénées, c'est le plan national d'action pour les plantes messicoles, on l'a déjà évoqué ce matin. Donc là, le but est de fournir, de favoriser la conservation des espèces messicoles, hein, qui en Midi-Pyrénées deviennent de plus en plus rares, et de répondre en même temps à des demandes de prairies fleuries par les fédérations de chasse et par l'agglomération de Toulouse. Donc là, le CBN Midi-Pyrénées a collecté des semences locales sur des rayons assez restreints, hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure, donc 90 km, c'est à peu près l'échelle du département, hein, c'est ce qu'ils avaient dit. Ce qui est une démarche a priori, en fait, hein, parce qu'il n'y a pas eu d'études génétiques ou scientifiques pour savoir qu'est-ce que signifiait le niveau local. Donc a priori, ils ont défini que c'était ce rayon de 90 km, et ils ont multiplié ces semences de messicoles. Alors tout d'abord par le CBN lui-même, hein, qui a multiplié de petites quantités, qui après les a envoyées chez des semenciers pour les multiplier en plus grosses quantités. Et après ça a été mis en culture par les fédérations de chasse et par les communautés d'agglomération. Donc par rapport au questionnement tout à l'heure par rapport aux itinéraires de culture, ils ont beaucoup avancé sur ces questions-là, notamment pour tout ce qui est bleuet, coquelicot. Ils ont vraiment travaillé sur ces questions-là, donc je pense que c'est intéressant de se rapprocher de ce qu'ils ont pu faire. Et il y a eu aussi une étude qui rejoint ce que les écolos font avec la ville de Montpellier, puisqu'il y a eu des études par les associations naturalistes sur l'intérêt de ces cultures de messicoles pour la biodiversité. Donc les associations naturalistes sont intéressées à l'entomofaune, et la fédération de chasse au petit gibier, à l'intérêt en fait de ces cultures pour le petit gibier et l'entomofaune. quelque chose que j'ai pas dit pour le projet d'Iverba, c'est que là en fait c'est posé aussi la question de la multiplication, parce qu'à chaque fois c'est quand même la question, dès qu'on veut multiplier un petit peu à grande échelle, hein, dès qu'on veut passer du stade récolte dans la prairie à l'ensemencement. Et en fait, eux, ils vont travailler avec les jardins de cocagne, qui vont multiplier à de toutes petites échelles les espèces, et donc sur des toutes petites surfaces, mais par un grand nombre de personnes. Voilà. Ils vont démarrer la multiplication par les jardins de cocagne pour après peut-être les destiner aux semenciers ou aux agriculteurs eux-mêmes. Et après, d'autres exemples d'utilisation de semences dans des projets de restauration écologique. Donc, c'est la restauration, par exemple, du coussoul en croc porté par le Conservatoire des espaces naturels de Provence, par la Chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône, par l'IUT d'Avignon et par l'IMEP, où là, ils ont le but, c'est de restaurer un verger hein, qui était en croc, qui avait été planté sur du coussou, qui va être arraché, et donc ils vont restaurer du coussou, donc c'est des pelouses à brachypodrameux en fait. Et donc là, ils ont fait directement de l'aspiration de graines sur le coussou à côté, et ils ont ressemé en direct sur le terrain qui avait été retravaillé. Et ensuite, il y a le projet dont je vous parlais tout à l'heure, de restauration de prés salés dans la basse plaine de l'Aude, que l'on porte en fait. Projet de restauration parce que là on est sur des prés salés qui sont totalement envahis par une espèce qui s'appelle la lipia, qui est une espèce envahissante qui peut occuper des prés qui jusqu'à présent étaient semés et qui sont maintenant occupés pour certains à près de 80% par cette espèce là. Donc le but c'est de retravailler le sol et de réinstaller des semences avec un pouvoir de couverture assez important pour limiter la réinstallation de la lipia. Voilà, donc là, on va travailler sur de la récolte de semences des espèces à la fois structurantes et aussi d'autres espèces pour reconstituer ces milieux-là. Donc travail qui va se faire avec des semenciers, mais aussi avec les agriculteurs de la basse plaine de l'Aude qui eux-mêmes pourront faire de la récolte de graines et de la multiplication. Donc tout ça nous amène à la question de quelles possibilités en Languedoc-Roussillon. Donc pour moi, il n'y a pas une possibilité, en fait, il y a de multiples possibilités. Dont trois qui me paraissent peut-être des pistes intéressantes. Donc c'est déjà la mise en réseau des acteurs concernés par l'utilisation et la multiplication de semences sauvages locales. Donc finalement, c'est déjà ce qu'on crée un petit peu ici, hein. C'est cette mise en réseau, c'est ce que disait Olivier en début de réunion, c'est de créer des liens entre les différents acteurs concernés par l'utilisation de semences sauvages. Mais là qui serait très largement élargi à tous les utilisateurs et des utilisateurs que l'on n'a pas trop l'utilisation de croiser, qui sont les entreprises de travaux publics, les grands aménageurs, les bureaux d'études, etc. L'autre piste, c'est de réfléchir carrément... ce que j'ai pas dit dans la mise en réseau des acteurs, ça veut dire là peut-être réfléchir à des solutions. Comme à mon avis à ce problème-là, il n'y a pas une solution unique. Notamment, il n'y a pas une solution unique par une filière de multiplication. Il y a peut-être du travail à façon. C'est de bien connaître qui est en capacité de faire quoi pour quel objectif en fait. Si on est sur de l'embellissement, si on est sur de la restauration écologique, c'est d'animer un réseau pour savoir vers qui s'adresser et bien connaître les compétences de chacun en fait. Et la filière de multiplication, donc ça c'est une autre idée, c'est carrément de créer en Languedoc-Roussillon, un petit peu comme ça a pu être fait pour les messicoles en Midi-Pyrénées, et ben un réseau là aussi d'acteurs pour multiplier des espèces qui seraient récoltées en Languedoc-Roussillon et qui seraient installées et utilisées en Languedoc-Roussillon. Et en fait, l'idée aussi peut-être, enfin, l'idée d'une charte sur la production et l'utilisation d'espèces sauvages à des fins de revégétalisation ou de restauration écologique, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'initiatives. Des fois, il peut y avoir des initiatives de grande ampleur, et que tout ça, c'est peut-être pas très cadré, et que ça mériterait d'être cadré par l'adoption d'une charte sur comment on récolte, qu'est-ce qu'on récolte, Et en termes de restauration et en termes de revégétalisation, qu'est-ce qu'on peut utiliser justement en ce qui concerne les espèces potentiellement envahissantes ou envahissantes et en termes d'origine. Voilà. Et ça peut très bien découler aussi sur la définition d'une norme sur la revégétalisation et la restauration écologique. Donc par rapport à toutes ces questions et à ces pistes de travail, en fait, nous, on souhaitait avoir au conservatoire un travail un petit peu de synthèse pour bien identifier tous les acteurs du territoire, enfin tous les acteurs concernés par cette question, pour estimer, pas précisément, pour estimer quels sont les besoins, les attentes, quelles sont les contraintes. On a vu déjà de nombreuses aujourd'hui. Donc il y a un travail qui va être réalisé par 5 élèves ingénieurs étudiantes à Supagro Florac et qui vont travailler entre septembre 2010 et janvier 2011 sur cette thématique-là et donc qui seront encadrés par moi-même et accompagnés par Dominique Tiss donc, de Supagro Montpellier. L'objectif de ce travail, c'est principalement de recueillir les expériences plus ou moins similaires sur le territoire ou à l'étranger. Hein. Je sais qu'en Belgique, ils ont travaillé également sur ces questions de semences locales. C'est de faire une enquête vers les acteurs potentiels de cette filière, hein, donc de voir quels sont les organismes ou les entreprises concernées par ce problème, donc les semenciers, les agriculteurs, les aménageurs, les paysagistes, les chambres d'agriculture, les associations naturalistes, les fédérations de chasse, de voir quels sont les liens qui existent entre ces différents acteurs, est-ce qu'ils se connaissent, est-ce qu'ils ne se connaissent pas, comment on pourrait créer du lien, de voir quelles sont les semences déjà existantes sur le marché, parce qu'on en trouve un certain nombre, mais bien souvent, sur ces semences, on ne sait pas d'où elles viennent. On n'a aucune information sur l'origine et quels sont leurs coûts. Faire une estimation, mais très simple, sur les besoins en termes de semences. Inventorier, mais là aussi de manière très simple, parce qu'on ne pourra pas tout voir dans un travail de 5 mois, mais d'essayer d'inventorier les contraintes techniques de production et de commercialisation, notamment liées à la réglementation, mais je crois que c'est ce qui va être évoqué dans les exposés suivants. Et de mener une réflexion sur les contraintes génétiques et notamment sur ce qu'on appelle l'origine locale. Et l'origine locale, qu'est-ce que ça signifie? Ça ne signifie pas la même chose pour toutes les espèces. Donc là, c'est à voir. C'est un travail qui est, à mon avis, à relier avec la recherche. Donc John va nous en parler dans la journée et en fin d'après-midi. Mais c'est d'essayer de mieux définir ce qu'on pense être l'origine locale. Et puis, de regarder quels sont les financements mobilisables pour peut-être mener à bien les différentes pistes que j'ai évoquées. Voilà. Okay.